Bienvenue dans The Attic Podcast, le podcast créé dans un grenier. Ne vous êtes-vous jamais dit que votre grenier était l'endroit où vous emmagasiniez un peu trop d'affaires? Moi si. Dans ce podcast, je vide donc mon sac, ou plutôt mon grenier, avec vous. Bienvenue dans The Attic Podcast, le podcast créé dans un grenier. Ne vous êtes-vous jamais dit que votre grenier était l'endroit où vous emmagasiniez un peu trop d'affaires? Moi si. Dans ce podcast, je vide donc mon sac, ou plutôt mon grenier, avec vous. Fin 2020, je me suis lancé le défi pour 2021 de regarder au moins un film par jour. Chaque semaine, je débrieferai donc avec vous des films vus durant la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans la 7e saison du défi de 365 films par an. Je vais dire par jour, mais non, je ne saurais pas regarder 365 films en un jour. Désolée. Alors on va commencer simplement en listant, comme d'habitude, les films dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour cette 7e semaine, on va parler de Benjamin Button, My Girl 2, Thor... Le monde sombre, Dark World en anglais, Bruce Springsteen, Born to Run, The Minimalism, La Nouvelle-Zélande et Qui a tué Michael Jackson. Regardez le film Benjamin Button. Alors, il est très très connu. En plus, l'histoire est facile à vous résumer. C'est ça, Benjamin Button est un homme qui vieillit à l'envers. C'est-à-dire qu'il commence sa vie en étant une personne âgée. Presque en fin de vie, en hospice, etc. Et il finit sa vie en tant que nouveau-né. Donc voilà, on va suivre la vie de Benjamin Button toute sa vie en ayant une relation amoureuse, etc. Tout en sachant qu'il va finir en étant un enfant, quoi. C'est très spécial. Et en même temps, ça fait réfléchir au sens de la vieillesse, etc. actuelle. Enfin, voilà, moi je me suis dit, ce serait cool quand même qu'on puisse choisir de vieillir à l'envers si on le souhaite. Enfin, ça change un peu dans le sens où si tu commences par être très vieux et sage et comment dire, devoir faire tout lentement, etc., presque tout réapprendre et finir par être un enfant, bah, je veux dire, dans notre société actuelle, on est plutôt du genre à faire l'inverse. On est un peu fou et innocent et on finit par être super sage dans notre vieillesse et à se dire waouh, j'ai perdu beaucoup de temps dans ma jeunesse et tout. Tandis que si. Après, je ne sais plus si dans le film, il naît avec voilà, toute la sagesse qu'ont les vieilles personnes, hein, de se dire, écoute, j'ai une longue vie devant moi, donc je sais quoi faire pour ne pas perdre mon temps et gaspiller ma vie à des choses futiles. Maintenant, si on naissait comme ça, est-ce que ce ne serait pas mieux justement de finir en tant qu'enfant? Comme ça, on profiterait à fond de notre jeunesse, on serait super en forme et tout. Et on mourrait en tant que bébé. Et en même temps, il y a une chose commune entre mourir en tant que bébé et mourir en tant que vieux, c'est que dans tous les cas, tu finis en properse, en général. Enfin, en couche-culotte, parce qu'on va essayer de placer des noms de marques ici dans ce podcast. Bref, film assez intéressant et assez original. Donc si vous ne l'avez jamais vu, franchement, allez le voir. Il est très connu, donc après, je pense pas qu'il y a d'autres films... Enfin, si, il y a d'autres films qui ressemblent un peu à celui-ci, comme About Time, où là, bah, le gars, je pense, peut vivre plusieurs vies ou peut remonter le temps, ou je ne sais plus quoi. Et il y a un autre film du même style, mais avec Sandra Bullock, mais je ne sais plus le nom. Mais voilà, il faudrait que je revoie About Time, parce qu'il est vraiment génial, et je ne sais plus trop l'histoire, mais je sais que lui, L'héros du film peut manipuler le temps et du coup, voilà, il vit une vie en sachant que la vie de sa femme va s'arrêter, mais pas la sienne, quoi. Il est en quelque sorte immortel, je crois, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai regardé My Girl 2. Donc, c'est la suite de My Girl, naturellement. J'ai pas regardé My Girl avant celui-ci parce que je l'ai déjà vu plein de fois et que j'avais pas envie de pleurer, pleurer, pleurer comme une madeleine. Parce que tous ceux qui ont vu My Girl, si vous n'avez jamais pleuré devant My Girl, je ne comprends pas trop. Même si, voilà, quand tu connais l'histoire, tu sais te retenir de pleurer au moment en question, mais en général, c'est. Enfin bref, je vais pas spoiler. My Girl 2, c'est donc la suite. Dans My Girl, on suit la vie de Veda, une petite fille. Qui durant ses vacances d'été s'ennuie parce que son papa est croque-mort. Voilà. Et du coup, lui, il est tout le temps occupé. Et clairement, il n'a pas de temps pour elle, en fait. C'est ça qu'on remarque le plus dans le premier film, c'est que il ne l'écoute pas, il ne passe pas du temps avec elle, il ne joue pas avec elle. Enfin bref, il est complètement zappé. Et il est un peu dépassé aussi parce que sa femme est morte, donc Veda n'a aucune figure maternelle à part sa grand-mère qui est complètement désorientée. Et donc arrive une femme dans sa vie, la vie de Veda, qui postule en fait chez son père en tant que maquilleuse, sauf qu'elle s'attendait pas à être maquilleuse pour les morts. Et voilà. Et donc on suit aussi Veda dans ses aventures d'été, où elle. Ça, c'est dans le premier film. Elle rejoint un club d'écriture, etc. Elle vit des aventures avec son meilleur ami, etc. Et dans le deuxième film, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on la suit en tant qu'adolescente. Avec son nouveau meilleur ami, etc. Et on suit un peu les évolutions aussi de sa famille. J'ai un peu du mal avec les suites, vous savez, mais je trouve que celui-ci est vachement plus léger que le premier. Et moi, drame. Veda mûrit aussi, forcément, mais. Je sais pas, c'est différent, c'est. Ah, si vous enchaînez les deux films, le premier est très beau vers soi et le deuxième est vachement plus léger, quoi. Ça calme un peu, ça contrebalance un peu le premier film. Mais ce sont tous les deux des classiques pour moi à avoir au moins vu une fois dans sa vie, quoi. Franchement, je vous le recommande à 100%. Ensuite, troisième film, j'ai continué mon visionnage des films Marvel, donc dans l'ordre que l'on conseille en général. Je pourrais. Vous montrer, vous publier l'ordre. Je vais vous publier l'ordre, je crois, cette fois-ci, dans le podcast, en description, comme ça. Vous verrez à peu près dans quel ordre j'ai suivi. Pour les fans de Marvel, vous verrez si c'est logique ou pas, ou si c'est, je me suis complètement trompée d'ordre, mais bon, logiquement, c'est le bon. En tout cas, moi, je me suis pas sentie perdue en me disant, oh, c'est qui ce personnage-là? J'ai jamais vu nulle part et il débarque dans le film. Non. Donc voilà, ici dans la suite, j'étais dans l'épisode. Enfin, l'épisode, non, j'en arrivais au film Thor, The Dark World, le monde sombre, je sais pas si c'est la traduction en français, mais bon, bref. J'avoue, je l'ai vu il y a longtemps, du coup, je ne sais, mais même quelques jours après, je pense que. Même juste après le film, je saurais quasiment pas vous dire de quoi parler le film. Parce que déjà, l'univers de Thor, j'aime pas. J'ai jamais accroché avec Thor dès le premier film où ça parlait de lui. Et. Faut autant vous dire que la série, là, sur son frère, qui avait leak, là, je vais pas la regarder du tout. Mais voilà, donc quand j'ai vu qu'il y avait des films rien que sur Thor, j'étais là, ah oh, super, j'ai pas accroché avec le premier, je vais m'en taper plusieurs autres, super! Donc voilà, mais je me suis laissée perdre dans l'action, enfin voilà, je trouve qu'il y a trop d'action des fois dans certains films Marvel, après vous allez me dire c'est le but des films d'action, mais je vous dis, il y a certains films d'action où tu as de l'action, puis ça se calme, donc tu peux à peu près suivre l'évolution de l'histoire, tandis que là, dans les films, pardon, dans les films. Comme celui-ci qui dure des fois 2 heures. 2 heures à suivre de l'action tout le temps, des batailles et tout ça, t'es là, mais. Tu rates une action et tu sais pas ce qui a changé. Fin. Et du coup, ça peut changer toute la fin de l'histoire, donc je crois pas trop. Franchement, le seul film que j'ai. Comment dire? Où ça ne m'a pas dérangé de suivre l'action, c'était les Iron Man. Et là, je pense que. Si je me souviens bien, Iron Man n'est pas censé. Tu n'es pas censé regarder la suite là des autres, je pense. Ou alors c'est moi qui ai fait une bêtise. Mais moi j'avais tellement aimé le premier Iron Man que j'avais enchaîné avec les deux autres. Je me suis dit, bah, c'est logique, théoriquement, je devrais pouvoir comprendre. Et effectivement, j'ai compris, mais bon, voilà. Thor, voilà. Donc, j'ai pas passé un super bon moment. J'arrêtais pas de regarder le timer aussi pour voir quand ça allait se terminer. Donc, voilà, j'ai un peu subi le film, on va dire. Je ne saurais même pas vous dire de quoi ça parle. Et bon, mon avis est clair, je pense. Ensuite, j'ai enchaîné avec Bruce Springsteen, Born to Run, donc le film biographique de Bruce Springsteen. C'est marrant que je l'ai regardé à ce moment-là, parce que quelques mois plus tard, je lisais le livre de Bruce Springsteen, du même nom, Born to Run, qui est sa biographie, du coup, écrite, son autobiographie. Et bah, je pense que j'étais un peu déconnectée quand j'ai regardé le film, parce que ça m'a pas plus marqué que ça. Je crois qu'il y a des pans que j'ai pas trop suivi. Parce que quand j'ai lu le livre, je me rappelais pas avoir eu connaissance de ça. Tandis que dans le livre, il y a plus de 800 pages, je crois, donc voilà, faut s'accrocher un peu, mais c'est un livre qui prend du temps à lire. Mais je veux dire, il décrit tellement bien sa vie et chaque étape que si je revoyais le film maintenant, j'aurais beaucoup plus facile à me rappeler du livre en me disant, ah bah oui, ça c'était à tel passage. Je me rappelle l'avoir lu, donc j'ai enfin les images qui vont avec le texte, quoi. Tandis que là, j'avais des images, mais je pouvais pas les relier à grand-chose. Mais vie intéressante, franchement, après avoir lu le livre, je pourrais vous faire des débriefs de livre si vous voulez, mais le livre, je me suis dit, waouh, quelle vie. Je vais pas dire misérable, parce qu'il a une belle vie aussi, mais je veux dire, sa jeunesse est compliquée, quoi. On va pas se mentir. Il vit dans un monde compliqué, et même en étant adulte, il a des passages compliqués, quoi. Des histoires de drogue, des histoires. Comment dire? Je sais plus exactement tout, mais vie compliquée, et en même temps, bah, vu l'enfance, tu te dis, bah oui, ça. Enfin, je veux dire, il a pas eu une enfance traumatique non plus, mais c'est pas étonnant, quoi. Il y a des choses qui sont pas étonnantes. Et c'est là que tu te dis, bah, le succès fait pas tout, quoi. Parce que il est quand même tombé dans certaines addictions et certaines habitudes. Et plusieurs fois dans le livre, je me suis dit, ça y est, le succès est au rendez-vous, tout va bien se passer. Et en fait, non, bah, je pense que d'une certaine manière, il s'auto-sabotait dans beaucoup de choses. Maintenant, voilà, si on gâche juste sa carrière actuelle et passée. On s'imagine pas toutes les embûches qu'il y a eu, quoi. Donc c'est marrant parce que il y a des gros moments dans sa vie, mais entre les moments, bah, le livre raconte justement ce qui se passe et là tu te dis, ah ouais, il y a une story derrière, il y a une histoire derrière la success story en question, quoi. Après ça, j'ai regardé un documentaire. Ça faisait longtemps. J'ai regardé le documentaire de Minimalism. Donc les minimalistes, je crois que ça se traduit comme ça en français, je suis pas sûre, parce que je la regarde en VO malheureusement. Donc c'est le film, si vous connaissez pas le principe du minimalisme, ça n'a pas été fondé par les deux protagonistes qu'on voit dans ce documentaire-là, mais eux ont créé tout un business autour de ça, c'est-à-dire qu'ils ont lancé leur nom d'entreprise, c'est The Minimalist, donc les minimalistes, ils se décrivent comme les minimalistes, mais c'est pas eux qui ont fondé le principe, hein. Mais voilà, en gros, leur vie a changé pour l'heure quand il a commencé à se mettre au minimalisme, sorry. Et du coup, son copain a suivi et ensemble, ils ont fondé leur entreprise comme ça. Et maintenant, bah, je pense qu'ils vivent quasiment que de ça. Et donc, dans le film, on comprend, on suit un peu leur histoire. Donc, les deux fondateurs sont Josh Milburn, je crois que c'est ça, et Ryan Nicodemus. Et alors, ils racontent leur histoire, ils racontent leur enfance, etc. Et comment ils se sont venus à faire l'entreprise qu'ils ont actuellement. Et on voit aussi plein de gens. Alors ils font des conférences principalement, mais on voit aussi plein de gens qui sont, je sais pas dire, tombés. Voilà, Josh Fields Milburn, pardon, le nom, c'était ça exactement. On voit plein de gens qui se sont convertis, on va dire, au minimalisme et qui ont du coup une vie totalement différente. Moi, là-bas, j'ai tombé sur ce documentaire-là parce que je regardais des vidéos sur des tiny houses et autres. Et une fille disait qu'elle avait changé de vie, elle avait déménagé dans une tiny house justement parce que elle avait vu ce documentaire-là. Donc, je me dis, je vais pas regarder pour voir ce que ça peut m'apporter. Et en gros, je vais essayer d'être simple, mais le minimalisme, on croit que c'est de vivre avec rien et se débarrasser de tout ce qu'on a. Mais en fait, non. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'applique, et je pense pas que c'est comme ça que l'appliquent les deux protagonistes non plus. En gros, le être minimaliste, c'est pas vivre avec moins, enfin, de base, c'est vivre, si, c'est vivre avec moins, mais c'est pas vivre spécialement avec moins ou avec rien, c'est en fait ne garder que ce qui a de la valeur pour toi, que les choses que tu utilises tout le temps. Par exemple, imaginons que tu as 10 sortes de stylos sur ton bureau, mais tu n'utilises toujours que le même parce que c'est ton préféré et que tu écris super bien avec. Ben pourquoi tu gardes les 10 autres qui ne te servent à rien en fait? Tu les gardes juste au cas où celui-là te lâcherait. En fait, le principe du minimaliste, c'est ben, tu bouges les 10 autres et tu gardes que ton préféré, et quand ton préféré ne va plus, tu rachèteras ton préféré. Ou alors tu achètes ton préféré de stock au cas où il se te lâcherait, mais bon voilà. En gros, c'est ça, c'est propre. Je sais pas moi, tu prends une pièce de la maison et tu commences à regarder toutes les affaires que tu as et te dire, bon, est-ce que je l'utilise? Oui ou non? Est-ce que je l'ai il y a un truc, est-ce que je l'ai utilisé dans les 3 derniers mois par exemple? Ou est-ce que je l'ai, si c'est oui, ok, est-ce que je l'ai utilisé la semaine passée? Non. Est-ce que je vais l'utiliser bientôt? Sûrement, ben alors tu le gardes. Ou si tu remarques que certaines choses tu n'utilises plus très longtemps et que tu n'en vois plus du tout l'utilité, que tu ne te vois pas utiliser dans un futur proche, bah, tu t'en débarrasses. Alors, eux, leur solution, parce que je ne vais pas dire tu dois tout jeter, hein, leur solution, c'est d'abord, si tu veux t'en débarrasser, tu le mets à vendre. S'il n'est pas vendu après 1 ou 2 semaines, je crois, tu diminues le prix. Et s'il n'est toujours pas vendu après 1 mois, soit tu le donnes, soit tu le jettes. Voilà. Comme ça, tu ne gardes pas en fait, du désordre, tu ne gardes pas des choses, tu n'entreposes pas des choses inutiles. Alors moi j'ai du coup essayé d'appliquer le truc, hein, le principe, mais j'ai commencé par mes vêtements. C'est un truc super simple à faire, parce que je suis pas une grosse fashionista, j'ai pas 10 000 vêtements, je fais pas les soldes chaque hiver et chaque été pour le principe de faire les soldes, c'est pas mon truc. Mais clairement j'ai trop de vêtements, pour ce que j'en mets, voilà. Et du coup j'ai commencé à faire le tri en me disant, est-ce que je l'ai mis récemment? Est-ce que j'ai encore envie de le mettre? Est-ce qu'il me plaît? Est-ce qu'il me plaît pas? Est-ce qu'il est pas trop petit, pas trop grand, trop abîmé, etc. Et je me suis retrouvée avec un gros sac de vêtements triés dont je ne voulais plus. Alors bon, ceux qui sont vraiment trop abîmés, certains j'en ai gardé pour faire des bêtes chiffons. Voilà, si tu veux prendre la poussière ou quoi, bah, tu prends un vieux t-shirt. D'autres je les ai mis dans un sac à donner, parce qu'ils étaient un peu abîmés, mais je pense pas que je pouvais les voir, donc je les ai mis à donner. Et les autres qui sont encore quasiment neufs, que j'ai quasiment pas mis, et je me demande même pourquoi je les ai achetés, je les ai mis dans un sac et je les ai mis à vendre sur Vinted, tout simplement. Mais j'ai pas fait leur truc de, voilà, après une semaine, si j'ai pas vendu, je baisse le prix, etc. Non, moi, ils sont toujours sur Vinted, ils sont toujours pas vendus, mais le sac est hors de ma penderie. Et du coup, j'ai gagné énormément de place. Après, on a fait à peu près la même chose dans la cuisine, dans les tiroirs et autres. Et ça fait tellement du bien, en fait, de gagner de la place. Après, moi, je suis pas capable de jeter quelque chose dont je suis émotionnellement attachée. Voilà, quelque chose dont ça me rappelle les souvenirs ou. Voilà, ou c'est un cadeau ou un truc comme ça. Même si je m'en sers pas, bah, je me dis, voilà, je le garde toujours. Le jour où il me fera plus rien, où j'aurai vraiment plus aucune émotion attachée à cet objet-là, alors peut-être que j'en ferai quelque chose d'autre que de le garder au fond d'un tiroir. Et c'est pas grave, mais voilà, au moins j'ai dégrossi les choses, j'ai gagné de la place dans les pièces de vie en fait. Et du coup, je me suis servi d'une pièce où je ne vais jamais pour entreposer les choses que. Dont je m'étais débarrassée, qui sont en vente ou qui sont. Dont je n'arrive pas à me débarrasser, mais j'ai pas besoin de les garder en fait dans ma pièce de vie. C'est-à-dire que si par exemple il y a un objet qui est, je sais pas, dans ta commode, mais ta commode tu l'utilises tous les jours et il prend de la place pour rien, mais tu l'utilises pas, ben, limite bouge-le dans le grenier ou quoi, comme ça tu gagnes de la place pour autre chose. Et t'es pas obligé de remplir cette place-là en fait. Tu peux dire, ben. Mes habits vont. Enfin, je sais pas ce que tu ranges dans ta commode, mais ce qu'il y aura dans ta commode, il y aura une place de plus, mais c'est pas pour autant qu'elle doit être remplie. Tu peux simplement aérer l'espace comme ça. Et du coup, la maison semble moins surchargée, en fait. Et je remarque aussi que depuis que je fais ça, ben, en tout cas, moi, ça m'apporte moins de frustration. Parce que. Quand on a du désordre et autres, on se dit, bon, bah, il faudrait peut-être que je range et tout, mais en même temps, chaque fois que je rangeais, en fait, imagine, je range un tiroir, le tiroir, je remettais exactement les mêmes choses que j'avais enlevées, mais dans un autre ordre. ils étaient rangés différemment. Je gagnais peut-être un petit peu de place où ça semblait mieux rangé, mais il n'y avait rien qui partait. Tandis que quand tu commences vraiment à te dire, est-ce que ceci, je m'en sers vraiment? Tu dis, bah non, il ne sert plus à rien, bouge-le. Et que tu sors vraiment des choses, tu te rends compte, waouh, j'ai vachement plus de place dans ce tiroir. Alors qu'avant, il me semblait tellement petit, mais en fait, c'est parce que j'entreposais des choses inutiles, tout simplement. Donc voilà, et je pense que c'est des choses qu'on peut refaire régulièrement parce que la première fois que tu vas le faire, il y a peut-être des choses, tu te diras, mais non, ça, je veux vraiment pas m'en séparer. Et c'est dur, hein, de quand on est vraiment matérialiste, qu'on s'attache vraiment aux objets, quand on a vraiment aucun attachement aux objets émotionnellement, ça, c'est pas difficile. Tandis que moi, je m'attache vraiment beaucoup aux objets, du coup, c'était difficile de faire partir beaucoup de choses d'un coup. Et je me rappelle la première fois que j'ai vendu un vêtement, j'ai eu du mal à m'en détacher émotionnellement. J'étais à deux doigts, une fois qu'il était vendu, de me dire non, non, c'est bon, je vais annuler la vente, je vais les garder, quoi. Et bah finalement, je m'en suis détachée. Mais donc, il faut une première étape. Et voilà, quand t'es fort attaché à tes objets, bah, autant commencer petit et peut-être le refaire régulièrement. Se dire, bon, bah ça, est-ce que maintenant je me sens prête à le jeter ou à le donner ou à le revendre? Est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Donc, c'est vraiment un processus qu'on peut faire régulièrement. Donc, pour moi, c'est ça le minimalisme, c'est constamment passer en revue tes affaires. Et ça peut être le minimalisme dans ta vie aussi, regarder à tes relations, à tes amis ou quoi, voir lesquels t'apportent encore quelque chose, lesquels ne t'apportent plus rien. Je dis pas qu'il faut jeter tes amis, hein, mais je veux dire, il y a un moment. Voilà, enfin bref, moi, une chose qui a changé ma vie depuis ce moment-là, c'est de. Comment dire? D'écouter leur podcast, en fait, à Josh et Ryan, qui s'appelle The Minimalist aussi. Il est en anglais, malheureusement, donc il faut comprendre un peu l'anglais, mais il parle très clairement. Donc, moi qui n'étais pas spécialement très bilingue à l'époque, je comprenais le trois quarts. Mais il donne beaucoup d'astuces et autres, et ils ont une façon très saine de voir les choses. Ils ont plein de mantras comme ça aussi qui est du style il n'y a pas de tu dois, il n'y a que des tu peux. Voilà, tu ne dois pas trier tes choses, tu peux le faire. Ou alors, que j'adore, c'est tu ne peux pas. J'adore, c'est le lâcher prise, ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu arrêtes de faire. Donc tu arrêtes en fait de te prendre la tête, etc. Arrête d'être anxieux, etc. Et mon préféré, c'est tu ne peux pas changer les gens autour de toi, mais tu peux changer les gens autour de toi. Voilà. Je ne sais pas si vous comprendrez ça se cacher, mais moi ça m'a percuté. Bref, je ne veux pas parler 1 heure sur ce documentaire-là, mais moi c'est un truc qui a vraiment changé ma vie maintenant. Je l'applique dans. Il faut juste commencer quelque part, mais j'applique leurs conseils aux choses qui me parlent. Les choses qui ne me parlent pas, je les laisse de côté. Voilà. Ils font plein de podcasts du style trier tes amis Facebook et autres. Moi, c'est des choses que voilà, je ne sais pas l'appliquer à moi-même, donc je le fais pas, etc. Il y a plein de choses comme ça, mais voilà, des choses où tu te dis, ah mais oui, en fait, j'ai jamais pensé à trier cet aspect-là de ma vie, ou en tout cas le passer en revue pour voir si je n'accumule pas trop de choses qui me font pas avancer, quoi. Et donc voilà, tout simplement, après voilà, être minimaliste, c'est pas vivre avec une table et une chaise, quoi. C'est ce que les gens pensent, mais non. Moi, j'achète encore des objets, j'ai plein d'objets dans ma maison, il y a encore plein de choses. Ma maison semble encore surchargée à certains moments, mais quand tu te mets à trier, que tu te mets à bouger les choses que tu n'utilises plus, à juste les mettre juste dans un débarras et te dire, voilà, au cas où, si je les veux encore, ils sont là. Et ceux que je sais que je ne veux vraiment pas, bah, je les mettrai, j'irai les donner ou quoi. Et voilà. C'est juste ça, c'est. C'est faire de la place pour des choses qui t'apportent plus de sens à ta vie, plus de. Comment dire? Ouais, plus de sens en fait. C'est ça, c'est. En anglais, ils disent Clutter is the things that hold you back. Et pour eux, être minimaliste, c'est avoir une vie avec plus de sens. Mais voilà, moi ce qui me parle surtout c'est de se dire, bah voilà, par exemple, tes vêtements, par exemple, maintenant tu ne portes plus, quand tu tries tes vêtements en tant que minimaliste ou quoi, tu ne portes plus que les vêtements que tu adores en fait, que tes préférés. Et c'est vrai, quand tu penses, c'est ridicule, notre vie est bien trop courte pour porter des vêtements qui ne nous plaisent pas, ou qui ne nous vont pas, qui nous donnent l'air d'un sac à patates. Pourquoi on ne porterait pas toute notre vie que nos plus beaux vêtements? Pourquoi est-ce qu'on s'afflige cette torture de se dire, bah non, il faut souffrir dans la vie. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux, tu peux pas manger ton plat préféré tous les jours, tu peux pas manger dans ton assiette préférée tous les jours, tu peux pas boire dans ton mug préféré tous les jours. Bah si, en fait, pourquoi tu pourrais pas? Si tu meurs demain, moi tu diras, bah punaise, j'ai bien profité, j'ai porté toujours les vêtements qui me plaisaient, j'ai mangé dans l'assiette qui était ma préférée, etc. Enfin voilà. Vivre une vie sans regret, en fait, tout simplement. Et ne pas avoir une tonne d'affaires qui te surcharge en fait et tu te dis mais j'ai tout ça mais j'arrive pas à m'en débarrasser et en fait c'est plus du désordre qu'autre chose quoi. Tandis que quand tu t'en débarrasses, c'est dur au début je pense quand on est matérialiste, mais quand tu commences à te débarrasser et que tu donnes les choses et que tu vois surtout les gens en profiter, après tu te dis bah. Ah, en fait, cet objet-là, je m'en servais plus des années. Il fait super plaisir à une autre personne, là. J'aurais dû faire ça plus tôt, en fait. C'est ce que tu te dis. Donc, voilà, moi, ça a changé ma perception des choses depuis. C'est une constante, ouais, une constante remise en question. Ensuite, comme avant-dernier film, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle La Nouvelle-Zélande. Super original, là, je sais. Ben voilà, que dire, c'est un documentaire sur la Nouvelle-Zélande, point. J'étais un peu déçue quand même parce qu'il montre des belles choses, mais plus le côté très tropical et sauvage de la Nouvelle-Zélande, alors que moi c'est plus le côté montagneux et enfin, le côté forêt, prairie, tout ça qui m'intéressait. Et comment dire? Il y avait une certaine mode à une époque, je sais pas si vous vous rappelez, tout le monde, en tout cas autour de moi, j'avais l'impression que tout le monde voulait la Nouvelle-Zélande. C'était leur objectif de principal de vie, aller en Nouvelle-Zélande. Je sais pas ce qu'il y avait eu autour de ça. Est-ce que c'est parce qu'on était à la sortie des séries comme Game of Thrones ou toi qui étais tournée là-bas, je pense, ou pas? Non, même pas, je suis même pas sûre. Et tout le monde voulait aller là-bas, je voyais des amis autour de moi qui partaient en voyage, ils voulaient absolument aller là, ils y allaient et tout. Je dis, mais pourquoi la Nouvelle-Zélande en particulier? Enfin, je sais que c'est magnifique, mais. L'Australie à côté est tout aussi belle. Enfin, il y a plein d'autres pays qui sont super beaux. Je sais pas, il y avait une mode sur celui-là en particulier, une fixette. Alors clairement, j'ai envie d'y aller aussi, on va pas se mentir. Mais, enfin voilà, si je n'y vais pas, je n'en mourrai pas, quoi. C'est pas mon objectif de vie. Mais c'est clair que moi, j'ai eu envie d'y aller quand j'ai commencé à regarder les bonus du DVD du Hobbit. Parce qu'ils montraient les lieux de tournage et je pensais que le Hobbit était tourné en Amérique ou au Canada, en tout cas. Parce que l'Amérique est aussi remplie de belles choses, de beaux paysages. Et en fait, c'était en Nouvelle-Zélande, et tu te dis, waouh, je comprends que vous avez détourné là-bas, les gars. Ouais, c'est magnifique. Pourquoi on parle jamais de Nouvelle-Zélande comme lieu de tournage, en fait? C'est tellement beau. Et en même temps, je pense que la Nouvelle-Zélande est très très sauvage. Il y a encore beaucoup d'anciennes tribus et de peuples autochtones. Donc, voilà, à mon avis, c'est un pays quand même assez compliqué. Tu peux pas y débarquer comme chez nous, ici. On a tous la même vie, tous une vie très industrialisée et. Très commune, tandis que là-bas, je suis sûre qu'il y a des endroits quand même encore qui sont très sauvages, qui appartiennent à des peuples, que c'est des terres sacrées, tu peux pas y faire ce que tu veux, tu peux pas. Enfin, comment dire? Tu ne peux pas venir avec ton mode de vie européen dans un mode de vie très sauvage, quoi. C'est pas très compatible, il faut vite s'adapter. C'est un peu comme débarquer en Afrique où ils ont un mode de vie comme un peu plus déconnecté du nôtre, quoi. En tout cas, moins matérialiste, moins industriel. Parce que ça aussi, c'est une fausse idée là, de dire que l'Afrique, ils vivent tous dans des huttes, ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas Internet, ils sont déconnectés de tout, alors que pas du tout. Mais bon, il y a quand même, voilà, je pense, des traditions bien différentes de chez nous aussi en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a encore ces anciens peuples. Dont on voit les histoires que dans les films, en fait, et on pense que ça n'existe plus, mais en fait, il y a encore beaucoup de peuples autochtones qui vivent dans les fins-fonds de certains pays, mais on n'en parle jamais, tout simplement. Alors, comme dernier film, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Qui a tué Michael Jackson. Je pensais que c'était le fameux film là, qui avait fait grand débat, quoi, documentaire qui était sorti et qui investiguait, je ne sais plus. Si c'était sur le jeune qui avait accusé Michael Jackson de pédophilie ou quoi, je ne sais plus trop. Mais en fait, non, aussi, c'était un simple documentaire d'une chaîne française. TMZ, non pas TMZ, c'est aux États-Unis. TMC ou quoi, je ne sais plus. Je crois que je suis tombée par hasard dessus ou quoi, et du coup je l'ai regardé. Et du coup ça repose un peu toutes les questions de qui l'aurait tué. Enfin, c'est tout le mystère autour de sa mort, quoi. On pense que ça serait son médecin, que ça serait manigancé par son père, etc. Perso, j'ai pas trop d'avis sur la question. Moi, je dis toujours que le Toff fera les choses et que la vérité sortira un jour ou l'autre. Mais que si la vérité, c'est que quelqu'un l'a tué et que c'est un meurtre, en fait, prémédité par un membre de sa famille ou de son staff ou son corps médical, peu importe, je ne serais même pas étonnée, en fait. Voilà. Je suis pas une grosse fan de Michael Jackson, mais son histoire m'a toujours un peu intriguée parce que quand il est mort, j'avais 11 ans, je pense. Et du coup, j'ai regardé un film sur lui parce que moi j'avais toujours eu peur de lui parce qu'on m'a dit qu'il était un pédophile et que je sais pas, moi son visage était extrêmement blanc, il me faisait penser ça me semblait tellement pas naturel que j'étais là, ça me fait peur, moi déjà comme ça. Enfin, petite, je sais que sa tête me faisait peur, il était tellement maigre, on aurait dit un squelette quoi. Enfin, son visage, tout ça était tellement strié, enfin, comme coupé au couteau quoi. Et très blanc, très pâle comme un fantôme. Et on m'a dit, ouais, il est un pédophile, donc voilà. Et j'ai jamais cherché plus loin, mais en regardant le documentaire sur lui, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est en 2009 que j'ai regardé ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait été accusé de pédophilie, mais que c'était la famille du jeune, de l'enfant qui l'accusait, qui poussait les choses pour avoir son argent, en fait. Donc, il n'y a vraiment jamais eu vraiment de preuve qu'il était pédophile, donc en même temps, je me dis, si t'es accusé de pédophilie, pourquoi est-ce qu'il peut toujours autant pratiquer son métier, quoi? C'est ça? Après, bon, il y a énormément de pédophiles dans ce monde qui sont cachés et protégés. Hein. Bref, mais du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de compassion pour lui parce que il n'a pas eu une enfance facile et voilà, son visage, par exemple, qui me faisait très peur parce qu'il était très pâle et très maigre. Mais en fait, il faisait tout pour ne pas ressembler à son père, tout simplement. Donc, c'est lié à des blessures d'enfance et autres. En clair, ce documentaire-ci ne m'a pas apporté grand-chose, si ce n'est une autre opinion sur les possibles raisons de sa mort. Enfin, pas raison, les possibles. Enfin, je veux dire, les raisons, on les sait, on sait ce qu'il a eu comme arrêt cardiaque, etc. Mais je veux dire, les possibles. Les personnes derrière tout ça, quoi. Et. Comment dire? Bah voilà, on peut plus rien faire depuis. Maintenant, je suis pas du tout dans les théories qui disent que Michael n'est pas mort en fait et que du coup il vit sur une île déserte avec Hitler et tous les autres. Bah bref, c'est pas drôle, mais espérons juste qu'un jour la vérité éclate quoi. Voilà, on en a terminé pour cette 7e semaine. J'espère que j'ai toujours que les gens qui écoutent depuis le début sont toujours là. Je vous ai pas perdu entre temps parce que j'ai laissé une grosse grosse pause de plusieurs mois. Je suis désolée, je vais vraiment essayer de me reprendre ici et de finir ce défi, de vous poster au moins les 52 semaines. Dites-moi s'il y a des films dans ceux qu'on a cités aujourd'hui que vous aimez beaucoup, vous n'aimez pas. Voilà. Donnez-moi votre avis, franchement, je suis très étonnée de voir si on a vraiment des avis divergents ou complémentaires. Donc voilà, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui est dans la description ou via l'Instagram du podcast, c'est-à-dire TheAddictPod. Tous les liens sont dans la description. Je vais vous rajouter aussi l'ordre dans lequel je regarde les Marvel. Et d'ici là, ben, on se retrouve, je vais dire la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûre, ou alors bientôt en tout cas, pour la 8e semaine. Il y aura encore du Marvel. Il y aura un documentaire et quelques films assez comiques et moins comiques, on va dire. Allez, je vous en dis pas plus et on se retrouve dans le prochain épisode. En tout cas, merci de votre écoute, merci de rester fidèle au podcast et on se retrouve pour une prochaine.